Bonjour, aujourd'hui je suis venu vous parler de deux parachiotes qui se suivent, Shlach Lecha et Korach. En fait, il y a un décalage aujourd'hui entre Israël et le reste du monde, puisque en Israël, étant donné qu'on a fait un seul jour de Shavuot, alors on va lire la paracha de Korach, et en dehors d'Israël, on est en quelque sorte en retard, et c'est la paracha de Shlach Lecha qui va être lu. Mais moi, je vais faire le lien, qui est un lien très naturel et profond entre les deux parachiotes et qui nous ouvre des perspectives aussi sur le monde actuel. Voilà. Alors, la paracha de Shlach Lecha, j'en avais déjà parlé, je suis obligé de résumer. Je me rappelle une leçon de Talmud de Lévinas. Chaque année, il faisait une leçon de Talmud au colloque des intellectuels juifs de langue française et il publiait cela. Alors, entre autres, vous avez les quatre leçons talmudiques qui ont été publiées aux éditions de Minuit. Et alors, lui pose la question suivante, qui est une question classique. Les 12 explorateurs qui sont partis en Israël pour tâter le terrain à la sortie d'Égypte, lorsque les Hébreux étaient encore dans le Sinaï, ils ont voulu, malgré la promesse de Dieu qui leur a dit « Allez-y, foncez, vous allez prendre la terre », mais ils ont voulu être prudents. Ils ont envoyé des explorateurs, 12 explorateurs, un par tribu. Et sur les 12, quand ils sont revenus, il y en a 10 qui ont dissuadé le peuple de monter en Israël en disant « Le peuple qui est là-bas est trop fort, on n'arrivera pas, c'est impossible à conquérir. » Et Lévinas se dit que ces gens-là avaient trop de morale, ils ne se sont pas sentis le droit de déposséder un peuple de sa terre. Et il dit, c'est un peu comme nos intellectuels juifs de gauche d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, il a intitulé son exposé Terre promise ou Terre permise. Voilà. Dans la mystique juive, dans le chassidisme, on a une autre perspective. On se pose la même question au départ. On se demande pourquoi finalement ces gens-là qui étaient triés sur le volet, c'était des Nessiim, des princes dans les tribus. Pourquoi n'ont-ils pas voulu faire confiance à la promesse de Dieu et prendre cette terre d'Israël qui les attendait, la terre promise? Alors, comme Lévinas a parlé de cela, il a intitulé son exposé Terre permise ou Terre promise, parce que justement, pour eux, cette terre n'était pas permise, ils ont péché par excès de scrupules moraux. Et dans le chassidisme, on dit non, ils ont péché par excès de spiritualité ou bien par une mauvaise compréhension plutôt de la vie spirituelle. Ils ont voulu rester dans le désert où ils vivaient de miracles, la manne qui tombait, un puits d'eau qui les suivait, et ils n'avaient pas à pousser la charrue pour gagner leur vie. La seule chose qu'ils avaient à faire, c'est étudier la Torah. Et ils voulaient rester dans cette vie contemplative, c'est-à-dire seulement étudier la Torah. Alors que notre tradition nous dit que si l'âme est venue dans un corps matériel, c'est pour influencer le monde matériel, c'est pour révéler Dieu au sein de ce monde matériel, c'est-à-dire bâtir une société, arriver à pousser la charrue et malgré tout réserver des temps pour la Torah et ne pas se laisser influencer par la société ambiante. D'ailleurs, eux, ils ont dit « Eretz ochelet yoshvea » C'est une terre qui mange ses habitants, et dans le sens symbolique, nous disent les mystiques juifs, ça veut dire que si l'homme rentre dans la société, il est assimilé par elle, il est mangé, il perd ses valeurs. Et Caleb, un des deux explorateurs qui a dit non, il faut monter en Israël, il leur a dit Lachmenouem, ils sont notre pain. C'est-à-dire, ils sont notre pain, c'est toujours sur la métaphore alimentaire. Si l'homme est fort dans ses convictions, dans ses valeurs, c'est lui qui élève son environnement, qui rayonne sur son environnement et qui l'élève à son niveau. Et donc, c'est lui qui assimile à lui son environnement. Ils sont notre pain. Nous allons les manger dans le meilleur sens du terme, mais c'est pas eux qui vont nous manger. En fait, si vous voulez, ça me rappelle ce que Marx disait. Ce n'est pas la conscience des hommes qui détermine leur vie. C'est pas parce qu'on se fait telle idée du monde, qu'on a telle idéologie, telles idées, que ça va déterminer la vie qu'on va mener. Il dit non, c'est le contraire. C'est la vie des hommes qui détermine leur conscience. C'est-à-dire que le milieu où ils ont vécu, le milieu où ils ont été élevés, etc., c'est ça qui va déterminer leurs croyances, leurs idées, la représentation qu'ils se font du monde. Mais dans le judaïsme, on pense que si l'homme est fort dans sa conscience de ce qu'il faut faire et pas faire, s'il est fort dans ses valeurs, c'est ça qui va déterminer leur vie. Et c'est ça que répond justement Caleb aux autres explorateurs. Quand l'homme est fort, ce n'est pas la société qui l'assimile, qui l'avale et qui rend cet homme comme elle, comme s'il était de la pâte à modeler, mais c'est le contraire qui va se produire. Et donc, Caleb leur dit aussi, allons, allez, montez, nous allons monter. Pourquoi deux fois le mot monter? C'est de là qu'on apprend qu'on monte en Israël, on fait ça à Aliyah, n'est-ce pas? C'est déjà dans la paracha, cette idée. Il leur dit, il y a une première manière de monter vers Dieu, c'est dans une vie de miracle, c'est ce que nous avons connu dans le désert, comme je l'ai expliqué, mais il y a une autre manière encore plus haute, c'est de s'inscrire dans un monde naturel et de révéler Dieu au sein de ce monde naturel. D'ailleurs, si on compare les langues, le mot « monde » en français vient d'un mot latin « mundus » qui veut dire « brillant ». Pour les Romains, le monde, c'est ce qui apparaît, c'est quelque chose dont l'évidence nous aveugle en quelque sorte. Mais pour les Juifs, le monde c'est « olam » et ça vient d'un verbe « le'alim » dissimuler. Le monde, c'est ce qui cache la présence divine et le challenge, le défi de l'homme, c'est de révéler justement la présence divine dans ce monde purement matériel. C'est peut-être ce qui explique que les Juifs ne se désespèrent jamais lorsqu'ils sont chassés d'un pays à l'autre. Je remarque qu'il leur faut une génération pour surnager, pour rebondir. Ils sont habités d'une véritable résilience parce que au fond de nos gènes, nous savons que notre âme est venue dans un corps et c'est une véritable descente, nous disent nos sages, par rapport au monde divin que cette âme avait connu avant la naissance. Mais cette descente, c'est pour donner un sens au monde matériel et donc il ne faut pas s'effrayer de cette descente. C'est une descente qui va amener à une ascension, à une élévation. Et juste après cette paracha, nous avons Korah qui s'est révolté contre le leadership, l'hégémonie de Moïse, Moshe et son frère Aaron. En gros, il dit à Moshe, pourquoi vous avez pris tout le gâteau, toi et ton frère? Toi, tu es le chef du peuple, ton frère, c'est le grand prêtre. Et pourquoi ils se révoltent maintenant? Parce que la leçon qu'on a appris justement de ces explorateurs, c'est que leur péché, c'était de vouloir rester uniquement dans l'étude et qu'il fallait à un certain moment, après s'être rempli d'études, bien évidemment, il fallait fermer la parenthèse et rentrer dans le monde de l'action. Alors, il dit en quelque sorte à Moshe, écoute, moi je ne suis pas un fou, je sais que dans l'étude je ne peux pas rivaliser avec toi, parce que toi tu es resté 40 jours et 40 nuits sur la montagne du Sinaï en tête à tête avec Dieu, et ensuite tu as d'abord appris la Torah à ton frère Aaron, donc vous nous surpassez dans le domaine de l'étude, je ne veux pas remettre cela en doute. Mais néanmoins, on vient d'apprendre que ce qui compte, ce n'est pas l'étude forcément, mais c'est l'étude lorsqu'elle mène à l'action. Or, dans le domaine de l'action, moi aussi, je suis un juif pratiquant, au sens le plus fort du terme. C'est-à-dire, tu mets les téphilines et moi, je mets aussi les téphilines, tu fais Shabbat et moi aussi. Alors, il lui dit, « Lama titnaseu al-keal Hashem, pourquoi c'est vous qui dominez l'assemblée de Dieu ?» Et il ajoute, « Toute cette assemblée est sainte, kol ha'eda » Et on ne voit pas. Alors Korach a été puni, lui et tous ses 250 complices, dans cette révolte qu'ils ont menée contre Moshe, qui était choisi par Dieu pour diriger ce peuple. Mais on ne voit pas qu'une réponse ait été donnée à cette question, à cette interpellation qu'il pose. Et les mystiques juifs nous disent, regardez le verset, le cinquième verset, quand Moïse, si vous préférez, je me mets toujours à la place des gens qui n'ont aucune connaissance en hébreu, Il dit à Korach, Boker, revenez demain matin. Et Rashi nous dit, en quelque sorte, il a voulu signifier que maintenant c'est un moment d'ivresse, un moment d'excitation, il faut se calmer, c'est pas le moment de se présenter devant Dieu. Mais en fait, il a voulu, nous dit Rashi, leur donner le temps de faire amende honorable, de se repentir, ce qu'on appelle en hébreu Teshuvah, c'est-à-dire retour à Dieu, retour à soi-même, à la meilleure partie de soi-même. Teshuvah veut dire retour. Alors pourquoi jusqu'au matin spécialement? Les mystiques nous disent parce que le matin c'est la lumière. Et il a voulu lui dire, c'est vrai qu'il faut faire teshuva, mais il faut faire un retour à Dieu qui soit lumineux et pas obscur. Comment peut-on revenir à Dieu de manière obscure? Parce que justement les motivations de notre pratique religieuse ne sont pas pures. En l'occurrence, il a voulu lui dire, tu vois, moi, je sers la Torah. Je ne voulais pas le pouvoir. Dieu m'a imposé de prendre la tête de ce peuple pour le faire sortir d'Égypte et ensuite de le mener vers la terre d'Israël à travers le désert du Sinaï. Mais pendant les 6 jours et 6 nuits de la vision du buisson ardent, cette fameuse vision où Dieu s'est manifesté à Moïse, Dieu a fait le forcing pour que Moshe prenne la tête de ce peuple et il ne voulait pas le pouvoir. Mais Dieu l'a obligé finalement. Tandis que toi, dit-il à Korach, tu veux le pouvoir. C'est ça ta véritable motivation qui t'anime. Moi, je sers la Torah et toi, tu te sers de la Torah pour avoir le pouvoir. Et donc, ce qu'on apprend d'ici, la grande leçon, c'est qu'il ne suffit pas d'avoir des actes religieux, mais il faut savoir analyser ces actes, la motivation qui les habite souvent souterrainement dans notre inconscient. La psychologie moderne, je pense, nous a rendu un grand service en nous disant que finalement, nous avons tous un disque dur que nous ignorons, et dans ce disque dur, il y a des motivations que nous ignorons aussi à nos actes. Et en fait, lorsque le père de la psychanalyse a parlé de l'inconscient, il l'a comparé, je l'ai déjà dit, à la face cachée de l'iceberg. Quand on voit un iceberg, c'est un immense bloc de glace dans les mers du Nord, n'est-ce pas, qui a coulé le Titanic. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est les 9 dixièmes de l'iceberg qui sont immergés, qui sont sous l'eau. Alors, nous dit-il, la partie inconsciente de notre être, c'est les 9 dixièmes. On ne connaît qu'un dixième de ce que nous sommes, c'est-à-dire la partie consciente. Or, les kabbalistes, ils parlent aussi de cette partie-là. Ils ne l'appellent pas la face cachée de l'iceberg, mais ils l'appellent, par exemple, racine. Ils vous disent, cet homme a fait ça parce que Béchorcho, dans sa racine, il était comme ça. Ou alors, ils l'appellent tamoun, l'enfoui. Or, si vous réfléchissez bien, pour faire une comparaison avec la psychologie moderne, la racine, elle est cachée, elle est sous la terre, on ne la voit pas. Mais c'est elle le socle de la plante que l'on voit. De la même manière, la face cachée de l'iceberg, on ne la voit pas, elle est immergée, elle est sous l'eau, mais c'est elle le socle de cet immense bloc de glace qu'on appelle un iceberg et qu'on voit au-dessus de l'eau. Donc on peut comparer les deux. Ils avaient une certaine notion, n'est-ce pas, de l'inconscient. Et donc c'est ça la leçon du texte. Il lui dit, il faut faire une teshuvah lumineuse. Et la lumière, c'est quoi? La lumière, d'après les mystiques juifs, c'est le symbole de la présence divine, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la lumière, comme la présence divine, c'est quelque chose qu'on vit, qu'on expérimente, mais pas qu'on prouve avec des raisonnements. Un aveugle de naissance, on ne peut pas lui expliquer ce que c'est que la lumière. Quelqu'un qui est ému parce qu'il sent en ce moment-là la présence divine, il ne peut pas le prouver à quelqu'un d'autre. Et aussi, il y a plusieurs autres raisons. La lumière, dans une salle totalement obscure, à 2h du matin, il n'y a pas de lumière, il y a des couleurs, mais on ne les voit pas, les couleurs. Tout est noir. Comme dit le vieux proverbe français, la nuit, tous les chats sont gris. Mais quand on allume la lumière, tout d'un coup, les couleurs qui étaient là, mais qui étaient en potentiel, elles deviennent réelles. De la même manière, la présence divine est comparée à la lumière, parce que quand un homme sent en lui la présence divine, eh bien, ça le pousse en avant, ça lui fait croire en lui-même, et toutes ses potentialités deviennent tout d'un coup réelles. Il a un véritable espoir dans la vie. Donc, la lumière, c'est pour ça qu'il le convoque le lendemain matin. Le matin, c'est la lumière, c'est la présence divine. Il lui dit, voilà, je te laisse jusqu'au matin pour faire tes chouvois. C'est une allusion. Il faut faire un retour à toi-même, à la meilleure partie de toi-même, mais un retour qui ne consiste pas à faire purement des actes. Le judaïsme n'est pas une pure collection d'actes. Il faut se poser la question des véritables motivations qui sont derrière ces actes. Et je vais vous raconter une toute petite histoire. Dans une synagogue, il y a quelqu'un qui, chaque Shabbat matin, au milieu de la prière, il parle 10 minutes, un quart d'heure. Il fait ce qu'on appelle une dracha, c'est-à-dire en milieu non-juif, on appelle ça un sermon, un discours sur la paracha. Voilà. Et puis, un jour, on lui demande, le président de la synagogue lui dit, voilà, il y a quelqu'un de passage, un rabbin vraiment très fort, très pédagogue, que vous connaissez d'ailleurs, et il est de passage, j'aimerais que vous le donniez la parole, qu'il fasse la dracha, le discours, à votre place ce Shabbat. Et l'autre qui répond, mais oui, bien sûr, il accepte. Et il sait très bien que la personne qu'on propose est plus compétente que lui, est meilleure pédagogue, s'explique mieux, parle mieux, est mieux comprise. Et donc, les fidèles vont gagner à l'entendre, et la Torah aussi va y gagner parce qu'elle va être mieux représentée que si c'était notre habitué qui prenait la parole. Donc, il accepte. Et normalement, il devrait se réjouir pour la Torah, parce que ce qui compte, on ne parle pas pour se faire écouter, pour montrer nos biceps intellectuels. On parle dans l'intérêt de la Torah, des valeurs que l'on veut partager avec les autres. Donc, il devrait être content que quelqu'un de plus capable que lui va jouer ce rôle. Eh bien, au moment où l'autre prend la parole, ou bien au moment où l'autre va prendre la parole, il sent un pincement de cœur. Il sent que quelque part, il a une amertume en lui. Eh bien, cette amertume, il doit l'analyser. Elle est peut-être le signe que lorsque tu parlais jusqu'à maintenant, tu croyais que tu parlais simplement dans l'intérêt de certaines valeurs qui sont des valeurs spirituelles, des valeurs de Torah. Mais en fait, tu parlais aussi pour la galerie, pour te montrer. Et ça, c'était quelque chose d'inconscient. Il faut savoir tamiser, filtrer, analyser nos motivations inconscientes. Et c'est ça que dit Moïse, Moshe à Korach. Tu sais, la pratique religieuse, c'est bien beau, mais il faut qu'elle soit dans la lumière, qu'elle laisse passer la présence divine. Et pour ça, il faut être sûr que nos actes soient purs et qu'ils ne soient pas inspirés par des motivations obscures. Et donc, c'est l'obscurité contre la lumière. Et finalement, quand les gens vous disent « Oui, mais vous savez, vous avez des religieux qui se comportent mal », il faut leur dire « Le problème est aussi vieux que le monde. » C'est l'opposition entre deux sortes de religieux, ceux qui sont du côté de Moïse, Moshe, qui sont lumineux, et les autres du côté de Korach, qui font des actes, mais qui sont obscurs. Merci de m'avoir écouté.